Professeur Michel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de pédiatrie, responsable du Centre de cancérologie pédiatrique de Marseille, le service d'hématologie, immunologie et oncologie pédiatrique. Alors le 15 février dernier, c'était la journée internationale du cancer de l'enfant. L'occasion pour nous de faire un point global avec vous. Mais pour commencer, après cette longue présentation, j'aimerais savoir concrètement en quoi consiste votre métier au quotidien.
Et tout d'abord, merci de m'accueillir dans ces locaux de la Ligue contre le cancer. Donc, vous l'avez dit, je suis professeur de pédiatrie et mon activité de soins de médecin est dédiée depuis maintenant quelques temps au cancer de l'enfant et plus particulièrement à aux maladies malignes qui sont les plus fréquentes chez l'enfant, qu'on appelle les hémopathies malignes, c'est-à-dire les leucémies et les lymphomes. Voilà, j'exerce ce métier dans un grand service, qui est le service d'hématologie, immunologie et oncologie pédiatrique, comme vous l'avez très bien dit, et qui est dirigé par le professeur Hervé Chambost. Je fais également de la recherche clinique, bon, à un niveau de clinicien, bien sûr, hein, c'est-à-dire de la recherche très appliquée autour de la mise au point de nouvelles techniques de greffe de cellules souches hématopoïétiques, de greffe de moelle, de thérapie cellulaire, et aussi une recherche sur ce que deviennent finalement les enfants qui sont guéris de ces maladies et qui sont devenus des adultes.
On peut peut-être justement dire aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants, alors on a des chiffres assez précis. Chaque année, en France, 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d'un cancer. 500 en meurent encore, malheureusement. Vous avez des chiffres à nous donner concernant l'avancement, justement, de la recherche? Je crois que les chiffres sont plutôt bons pour ces dernières années.
Oui, ils sont plutôt bons, bien que encore très imparfaits. Mais on partait tout de même, il y a quelques décennies, d'une maladie, enfin de maladies constamment mortelles et généralement très rapidement mortelles. À l'heure actuelle, du fait de la mobilisation médicale, de la mobilisation de la recherche, on arrive à guérir environ 8 enfants sur 10 atteints de ces maladies, ce qui est bien malgré ces imperfections.
Alors ça se guérit mieux, mais est-ce que le nombre de cancers des enfants augmente encore ?
Non, le nombre de cancers de l'enfant n'augmente pas réellement. Je sais que ça a été dit, mais s'il augmente dans les pays industrialisés, c'est vraiment à la marge et probablement c'est plus lié à une meilleure détection et puis à une meilleure exhaustivité de nos données épidémiologiques qu'à une réelle augmentation importante du cancer de l'enfant.
Ce qu'on dit aussi beaucoup, c'est que nos modes de vie jouent beaucoup concernant les cancers de l'enfant. Est-ce que c'est vrai, ça ?
Je ne crois pas. Non seulement je ne crois pas, mais je me fais l'écho de la communauté scientifique en disant que réellement, le mode de vie, contrairement à ce qui existe chez l'adulte, où, bon, vous savez, le tabac est responsable d'un grand nombre de maladies cancéreuses chez l'adulte, chez l'enfant, non. Chez l'enfant, l'environnement joue peut-être, mais sans doute de manière très différente de l'adulte. Et autant que nous le sachions à l'heure actuelle, vraiment de manière très modérée.
Donc la pollution, la malbouffe n'auraient pas d'incidence réellement à ces âges-là.
Alors, je ne dis pas que la pollution et la malbouffe, c'est très bien. Mais il ne faut pas faire feu de tout bois. Il est faux de penser que les cancers de l'enfant augmentent du fait de la pollution ou de ce genre de choses.
Très bien, mais je pense que c'était important de le préciser parce que c'est des idées reçues très ancrées. Alors nous nous trouvons aujourd'hui pour cet enregistrement à la maison bien-être de la Ligue contre le cancer, comité 13. Au niveau de votre service, quelle est l'importance du soutien financier de la Ligue ?
Il est tout à fait majeur au niveau du service, au niveau de la recherche qui est effectuée dans ce service. Oui. Parce que, évidemment, les soins aux enfants sont, comme partout en France, remboursés par la sécurité sociale, dans nos hôpitaux, bien sûr. Mais là où la Ligue contre le cancer nous aide de manière considérable, c'est dans la recherche sur le cancer de l'enfant. Et j'espère que dans mes propos préalables, enfin dans notre discussion préalable, où nous avons dit que finalement c'est grâce à la mobilisation d'un grand nombre de chercheurs qu'on peut guérir 80% des enfants à l'heure actuelle. Et donc vraiment, recherche et soins sont très intimement liés en cancérologie pédiatrique, vous voyez. Oui. Et pour aller plus loin dans ce qu'apporte la Ligue contre le cancer au cours des dernières années, ça a été un soutien majeur. Pas unique, bien sûr, et bien sûr, on a des aides de l'État à travers du programme hospitalier de recherche clinique, on a des aides de l'Institut du cancer, on a des aides de la cancéropole. Mais les aides financières associatives sont importantes et la Ligue contre le cancer est pour nous une association très importante. Et je dirais, voyez, pas uniquement au niveau local et pas uniquement au niveau national, mais aux deux niveaux, puisque vous savez qu'il y a une ligue, la Ligue contre le cancer nationale, et puis il y a les comités départementaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui, et les deux nous aident de manière considérable.
Donc on rappelle l'importance de donner et d'aider la Ligue contre le cancer, évidemment. Quels sont vos objectifs à titre personnel en termes de recherche pour les années à venir ?
Alors, évidemment, même si on a l'impression que faire de la recherche en cancérologie pédiatrique, c'est quelque chose de très ciblé, on est obligé de cibler encore plus si on veut être efficace et finalement faire avancer les choses. Hein. Et donc, il y a plusieurs types de recherche en cancérologie pédiatrique. Une recherche que je n'exerce pas ou peu, qui est de la recherche fondamentale.
D'accord.
Mais qui est pourtant très importante. Elle nous a permis de démembrer beaucoup de ces maladies, de trouver des stratégies différentes de traitement par rapport aux stratégies classiques.
On va vulgariser au maximum.
Eh bien, ce que je veux dire, c'est que je vais parler de ma recherche à moi qui n'est pas de la recherche fondamentale, mais je tiens tout de même à dire qu'il faut de la recherche fondamentale parce que ça nous a permis d'avancer beaucoup, notamment pour trouver les causes de la maladie, les mécanismes intimes, vous voyez, et on pourrait imaginer que les cancers de l'enfant sont liés à des causes exogènes, comme vous me disiez tout à l'heure. Mais en fait, ce qu'ont montré la recherche fondamentale, c'est qu'il y a des événements dans notre génome qui peuvent être analysés, expliqués, et contre lesquels, d'ailleurs, on peut parfois donner des traitements tout à fait ciblés sur l'anomalie. Vous voyez ? Donc ça, c'est une recherche que je ne fais pas moi, la recherche fondamentale, mais qui est importante. Moi, j'ai fait de la recherche surtout autour de deux aspects. D'abord, le premier aspect qui est le développement des traitements par thérapie cellulaire, c'est-à-dire la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Vous voyez, et c'est une technique qui sert surtout à traiter les leucémies de l'enfant et de l'adulte. Mmh. Enfin, moi, je ne m'occupe que d'enfants, bien sûr. Et on a développé de nouvelles techniques à partir du sang placentaire, à partir de nouvelles techniques de thérapie cellulaire, vous voyez. Et puis, ce qui m'occupe le plus à l'heure actuelle, c'est un travail qui est plus sciences humaines, si j'ose dire, qui consiste à regarder, à analyser et à essayer de comprendre ce qui se passe lorsque ces enfants sont guéris. Parce que il est très important de guérir plus, bien sûr. 80%, c'est pas 100%. Et donc, c'est très important de continuer à améliorer nos traitements. Mais il faut voir aussi que ceux qui guérissent n'auront pas forcément la vie qu'ils auraient eue s'ils n'avaient pas été malades. La vie qu'ils méritaient, finalement. Mmh. Et pourquoi cela ? Eh bien, d'abord, du fait de séquelles physiques possibles, je dis bien. Hein. La vie peut être très belle lorsqu'on est guéri d'un cancer de l'enfant. On peut avoir une vie normale, sans séquelles, formidable. Mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Mmh. Et il est très important d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle on a monté, il y a maintenant un peu plus de 15 ans, avec le professeur Pascal Auquier, qui est épidémiologiste et professeur de santé publique à Marseille, on a monté un dispositif, une cohorte en quelque sorte, qu'on a appelé Léa, et qui au départ était loco-régional, mais qui maintenant est national, et qui suit un peu plus de 6000 enfants, enfin pardon, pas des enfants, de patients qui peuvent être devenus des adultes, et qui sont tous guéris d'une hémopathie maligne de l'enfant, c'est-à-dire d'une leucémie ou d'un lymphome. D'accord. Et c'est une cohorte qui est maintenant nationale. On a bien montré finalement les relations entre exposition thérapeutique et ce risque de séquelles, voyez, et ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle et pour lequel on a un fort soutien de la Ligue contre le cancer, c'est d'essayer de trouver une susceptibilité génétique à ces effets secondaires à long terme. Je m'explique et j'essaie d'être le plus simple possible. À exposition thérapeutique égale, c'est-à-dire lorsque un groupe de patients a reçu le même traitement, certains vont très bien, certains vont moins bien, à exposition thérapeutique égale. Ce qui nous laisse penser qu'il puisse y avoir des gènes de prédisposition ou de protection. Et c'est une grande aventure dans laquelle on s'est lancé, qui est d'essayer de comprendre cela. C'est une grande aventure parce que on est en train de séquencer l'exome entier de 1500 patients guéris d'une leucémie de l'enfance.
Exome ?
L'exome, c'est la partie de notre génome qui code pour les gènes. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un très gros travail de séquencer toutes les parties codantes du génome de 1500 patients.
On imagine, oui.
Mais c'est notre challenge actuel.
Donc ce sont vos objectifs pour les années à venir. Autre question de néophyte, on va dire, mais ces deux dernières années, on a beaucoup parlé de l'ARN, des traitements ARN messagers. Enfin, est-ce que ça va pouvoir aider la recherche, comme certains l'ont dit ?
Pour l'instant, pas beaucoup. Pour l'instant, les traitements, il y a les traitements conventionnels, bien sûr, par la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Pas pour les hémopathies malignes qui ne nécessitent généralement pas de chirurgie, mais pour les tumeurs solides. Et puis, la thérapie cellulaire, c'est-à-dire les greffes de cellules souches hématopoïétiques qui permettent de guérir les leucémies aiguës les plus graves. Et puis, l'immunothérapie, qui a longtemps été un rêve pour nous, parce que tout le monde voyait bien que peut-être qu'en manipulant le système immunitaire d'un individu, on allait pouvoir l'aider à combattre son cancer et à guérir. Mais pendant longtemps, ça a été un rêve et on n'y arrivait pas. Et maintenant, on a vraiment, au cours des dernières années, eu des avancées considérables dans ce domaine-là.
L'ARN, on n'y croit pas forcément.
L'apport actuel n'est pas très important, mais ensuite, c'est une voie de recherche qu'il ne faut bien sûr pas négliger. Qui sait de quoi sera fait demain et qu'est-ce qui va faire nos progrès. Vous savez, l'avantage d'être un peu ancien comme moi, c'est de s'être aperçu qu'à certains moments, on peut penser que la voie est là, et puis la voie n'est pas là, elle est à côté. Et donc, il faut aussi accepter dans la recherche qu'un certain nombre de gens continuent à chercher dans un domaine qui n'est pas tout de suite productif bien et sûr. Qui ne va pas tout de suite révolutionner le pronostic des malades.
Merci beaucoup, professeur Michel.
Merci encore.
Bonjour, c'est Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à chacun d'entre vous d'avoir écouté ce podcast réalisé par la Ligue régionale dans le cadre du plan cancer de la région Sud. Merci à vous.